Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien voilà, de retour ici pour cette matinale dédiée à l'Office foncier solidaire des Yvelines. Et nous sommes d'ailleurs dans un écrin architectural, puisque nous sommes dans l'hôtel du département de Versailles. Nous continuons justement ces conversations avec ceux qui fabriquent la ville au quotidien. Et j'ai le plaisir de recevoir Cécile Hagmann. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la COP foncière. Alors, si on prend la COP foncière, c'est une société coopérative finalement qui a été créée à l'initiative d'organisations HLM et avec les soutiens de la Fédération des COP également. J'ai envie de vous poser cette question justement, qu'on vous connaisse un peu plus, justement la COP foncière, c'est qui, c'est comment ?
Alors, à COP foncière, vous avez déjà donné un élément assez fondamental de son ADN. C'est un organisme de foncier solidaire, d'abord. C'est important de se le rappeler, qui a été
créé. Oui, c'est un OFS, bien
c'est
sûr.
C'est un OFS. Absolument. Ouais. Nous sommes un OFS francilien. Nous sommes le premier à avoir été créé en Île-de-France. C'est une histoire de conjoncture de calendrier. Et à l'initiative des organismes HLM, je trouve que c'est important de se le rappeler parce que, à la fois, ça remet l'histoire du BRS et l'histoire de comment la jeunesse du BRS est aussi a été portée par le mouvement HLM et par le mouvement coopératif HLM. Et ça parle aussi de notre modèle, de nos principes d'intervention, de nos modalités d'intervention sur les territoires. Être un OFS issu du mouvement HLM, c'est se donner à la fois la possibilité d'intervenir sur l'intégralité du territoire francilien, de démultiplier les acteurs et les opérateurs avec lesquels nous intervenons. Et c'est avoir un modèle économique. Hein, les OFS sont aussi connus pour la diversité de leur modèle et politique et économique, et d'avoir un modèle économique très proche du modèle HLM, c'est-à-dire beaucoup d'emprunts, des perspectives de temps long et une redevance qui vient amortir nos emprunts sur le temps long.
Bien sûr. Alors justement, ces 8 organisations, je crois que c'est 8, hein, 8 organisations HLM.
Ah, 25.
Oui, pardon, 25 HLM. Organisations, pardon.
Plus des collectivités.
25 opérateurs, pardon. Oui, voilà, c'était 8 collectivités, plus exactement, pardonnez-moi. Alors vous avez un terrain de jeu, finalement, régional.
Oui.
À l'instar d'un OFS qui intervient uniquement dans les Yvelines, comme c'est le cas de l'OFS dirigé par Simon Goudière. Oui. Pour vous, justement, quand on prend les éléments, on va dire, les plus essentiels dans votre mission, vous avez énoncé l'idée du modèle du logement social. Mm-hmm. Le modèle du logement social, c'est un accès pour tous. C'est la possibilité, finalement, d'avoir un accès au logement dans des conditions dignes, décentes, dans un univers finalement assez contraint. Quelles sont justement les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce modèle ? Aujourd'hui, on est sur des problématiques de densité. On est sur des problématiques de difficultés d'accès au logement. Comment vous arrivez à résoudre ces équations, à la fois dans vos opérations également, c'est-à-dire d'accès au foncier par exemple, de débloquer des opérations ? Est-ce que le BRS, justement, le bail réel solidaire, est l'un des éléments moteurs finalement qui permettra une meilleure fluidité d'accès au logement?
Oh, il y a beaucoup de choses à
faire. On serait plus dans le domaine de l'échange que de la question.
Non, mais c'est intéressant. Alors, D'abord, je crois qu'il faut. On a des ambitions. Je crois qu'on partage avec l'OFS 78 une ambition pour le bail réel solidaire et pour son développement en Île-de-France. On est convaincus, effectivement, que ce modèle-là, ce dispositif-là, va nous permettre de produire des logements de qualité dans des territoires attractifs et tendus, à des prix abordables par des ménages qui sont sous plafond de ressources. Je suis pas sûre que le BRS, en revanche, puisse avoir la prétention, et ça ne me semble pas être celle qu'on lui a donnée au départ, de résoudre la crise du logement.
Bien sûr. Hein,
on est vraiment sur un public qui a quand même une capacité d'accès à l'emprunt, donc on vient pas remplacer le logement social, on vient le compléter, et là encore, c'est un point très fort de convergence avec l'OFS 78. Donc ça, pour nous, c'est important. Nous, avec notre compétence régionale, effectivement, la dynamique coopérative, elle nous permet de travailler avec beaucoup d'opérateurs, bien sûr, et elle nous permet de travailler sur tous les territoires franciliens sans avoir forcément de restrictions. Donc, bien sûr, quand on intervient dans les Yvelines, on est respectueux de l'OFS des Yvelines. Quand on intervient à pleine commune, on est respectueux de l'OFS de pleine commune. Chacun est sur son périmètre. Mais on n'a pas de limite territoriale à l'intérieur de l'Île-de-France. excusez-moi, à l'intérieur de l'Île-de-France, à la limite près de à quels sont les territoires sur lesquels il y a un intérêt à produire
bien sûr.
Des logements en BRS, à quel moment le BRS devient pertinent et performant, justement pour apporter cette réponse complémentaire aux besoins en logement. Et cette réponse complémentaire, c'est celle qui n'est pas remplie par le logement locatif social, qui n'est pas remplie par le logement locatif libre, et qui n'est pas non plus remplie par ceux qui ont la capacité d'acheter d'accéder à la propriété. Le BRS, en fait, il vient rapporter un morceau de réponse dans un segment qui est finalement sur ces quatre pans, le locatif social, le locatif libre, l'accession libre. Donc nous, on vient se positionner sur ce segment-là et il n'est pas partout nécessaire de produire des logements BRS. La COP foncière, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le côté coopératif, ça nous permet aussi d'avoir un collège ouvert à des collectivités. Aujourd'hui, on a 9 collectivités qui sont dans le sociétariat de la COP.
Donc, voilà.
On est passé de 8 à 9.
La 9e est arrivée.
Ouais. La 9e, c'est l'agglomération de Cergy-Pontoise qui est rentrée dans le sociétariat de la COP. Donc ces territoires, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est... Ce que nous dit cette géographie de ces 9 territoires, ça ne nous dit pas la limite, hein, puisque nous, on intervient sur 50 communes aujourd'hui en Île-de-France, mais ça nous dit que ces territoires-là, ils ont une volonté, une ambition de produire du logement au BRS. Ils ont l'ambition de maîtriser cette production de BRS, et donc ils choisissent leur OFS, ils choisissent de le faire avec la COP foncière.
Alors, la COP foncière, vous l'avez rappelé, c'est un modèle coopératif par définition, et donc qui est gouverné par le principe de démocratie, avec un bureau, une gouvernance, élu, un dispositif. Je trouve ça extrêmement bien, extrêmement sain, parce que le sujet du logement est un sujet éminemment politique et local, bien évidemment. Comment vous appréhendez justement la relation que vous faites, que vous avez avec les OFS locaux, quand je dis locaux, avec les Yvelines, mais aussi avec d'autres OFS avec lesquels vous collaborez. Vous complétez votre action de quelle manière?
Plusieurs, en fait. C'est très, il y a plusieurs.
Si vous avez un exemple, d'ailleurs, à nous donner pour illustrer, qu'on comprenne bien.
Alors, d'abord, on complète nos actions de manière opérationnelle. Comment on va intervenir sur des territoires? Aujourd'hui, on est dans les Yvelines, parlons des Yvelines. Je considère que je ne me développe pas dans les Yvelines si je suis sur un territoire qui fait partie de la géographie prioritaire de Simon Goudiard et de ses équipes. Donc, quand on a une proposition pour intervenir dans les Yvelines, on coopère.
C'est très bien.
C'est une coopérative qui coopère.
Là, pour le coup, on est dans l'ADN total.
Et donc, aujourd'hui, on appelle les équipes de l'OFS 78 quand on a une opportunité dans les Yvelines. Et à contrario, quand l'OFS 78 voit arriver un projet mais qui ne rentre pas dans ses priorités d'intervention, il nous appelle et il nous renvoie les interlocuteurs opérateurs. Donc on a vraiment cette coordination.
Ouais. Et c'est fluide.
Et c'est extrêmement fluide. Oui, c'est très fluide. On l'a toujours placé comme ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, je considère que les OFS des territoires sont prioritaires sur leur territoire et que j'ai aucun intérêt, ni politique ni économique, à venir m'y opposer. Et cette convergence, cette complémentarité, en tout cas avec l'OFS 78, c'est quelque chose qu'on vit pleinement et qu'on met en œuvre au quotidien.
En fait, il n'y a pas de redondance entre la création d'un OFS qui a un périmètre d'action régional et l'OFS qui a un périmètre d'action local.
Il n'y a ni redondance ni concurrence. C'est voilà. Important, hein. Souvent,
c'est très important.
C'est la risque de concurrence.
Oui, c'est très important ce que vous dites. Il y a vraiment un esprit coopérant dans les relais que vous faites, effectivement. Comment vous appréhendez, Cécile Ackmann, les opérations en matière de qualité d'opération? Justement, souvent, c'est une question que l'on pose. Juste rappeler, bien évidemment, que le bail réel OCIDR est un outil qui a été mis en place par le législateur avec la création des OPS, dont on peut dire que c'est un véritable succès depuis le lancement des OFS et que ça a résolu un certain nombre de situations. Bail réel solidaire qui attire vraiment une clientèle qui a vraiment cette perspective de la primo-accession, du logement, de la résidence principale, qui est un vrai sujet. On sait que les phénomènes de décohabitation ont fait exploser la demande de logement. On sait que aujourd'hui on accède de plus en plus tard à la propriété, quel que soit le modèle d'accession à la propriété, parce que vous savez, quand vous avez été lancé avec les OFS, on a souvent dit voilà, c'est la mort du droit de propriété classique, on va finir dans un droit d'emphytéose à l'anglo-saxonne, etc. Pas du tout le cas, et heureusement, voilà. Non, en France, on aime bien parfois aller sur les extrêmes. La qualité des opérations, j'aimerais que vous nous rappeliez, Cécile Ackmann, qu'il n'y a pas de différence dans la qualité des opérations. On est sur des opérations vertueuses, qui sont économes, qui ont une empreinte carbone ultra maîtrisée. Parlez-nous-en.
C'est question et réponse. Alors oui, en fait, la question de la qualité, je trouve que c'est un sujet qui est... qui est finalement pas si évident que ça à traiter, parce que en fonction de qui se questionne sur la qualité des logements, la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire que nous, on est une coopérative, donc j'ai encore un collège de plus qui sont les habitants. Hein. Chaque ménage qui achète un logement en BRS avec la coop foncière a une part de notre coopérative.
D'accord.
Et on a une administratrice qui est habitante.
Qui est élue par les usagers.
C'est pas vraiment une élection, mais en tout cas, on a dans notre conseil d'administration une représentante des habitants.
Donc, important pour vous, ça.
C'est très important parce que ça permet, le dialogue opérateur, élu, habitant, il permet de ne pas s'enfermer dans une seule lecture. Les opérateurs, nous, on travaille avec que des organismes HLM qui ont des cahiers des charges, qui ont dont le métier historique est de produire des logements qui doivent durer. C'est quand même une des qualités des opérateurs HLM. Donc, d'abord, on s'assied sur ces valeurs-là qui sont très fortes auprès de nos sociétaires. C'est pas forcément complètement suffisant, il faut qu'on soit exigeant. Mais les ménages, quand on les interroge, le grand public, quand on les interroge sur qu'est-ce qui fait la qualité d'un logement, ils nous parlent de vue dégagée, ils nous parlent de lumière, ils nous parlent d'espace, ils nous parlent de prix, ils nous parlent de performance au sens du confort. Pas tellement qu'ils veulent que ce soit très performant énergétiquement, ils veulent que ce soit confortable, qu'on ait
confort
chaud,
d'été, confort
qu'on
d'hiver,
pas trop chaud, pas trop froid, surtout pas trop froid,
et que l'énergie coûte pas un bras. Voilà.
Et puis que ce soit un peu isolé.
Oui.
Donc en fait c'est ça, et surtout le prix qui revient tout le temps en premier. Quand on parle avec des aménageurs, ils nous parlent procédés constructifs, ils nous parlent terre crue, ils nous parlent de choses qui sont intrinsèquement des questions de qualité et de aussi de pérennité de notre capacité à produire des logements dans le temps long.
Ça parle aux usagers, ça ?
Non.
Quand on dit non, bah non.
Non, non. Les usagers, quand ils voient du bois, ils disent bon, c'est sympa, mais ça va griser. voilà, ils ont un réflexe d'usager, et ce qui est normal. Donc, et puis cette notion de prix est très importante. Et puis après, on parle de qualité aussi à travers toute une série de certifications et de labels. Et finalement, ces trois lectures de la qualité qui sont assez différentes, qui convergent pas toujours. Et nous, en tant qu'OFS, on doit faire cette synthèse-là parce que je peux produire des logements de super qualité, mais s'ils sont trop chers par rapport à mon public cible. Je vous rappelle que je suis issue du monde HLM et que je m'intéresse finalement pas que au haut des plafonds de revenus. J'ai besoin aussi d'aller chercher des publics qui sont très éloignés de l'accès à la propriété, de tenir cette promesse du BRS d'être social et solidaire. Et donc j'ai besoin de produire et des logements de qualité et des logements accessibles. Et vous le disiez en début de question, c'est pas parce que nos logements sont moins chers,
c'est antagoniste,
sont de moins bonne qualité.
C'est le sens de la question.
Voilà. Mais on doit trouver le bon niveau de positionnement de la qualité pour venir remplir répondre à un certain nombre d'ambitions, répondre aux attentes des habitants qui peuvent être, et le tout dans une enveloppe financière qui nous permette de rester sur un produit d'accession sociale.
Mais quand vous voyez par exemple la cherté du foncier, où il y a un vrai sujet à la fois de densité, de l'imposition finalement, ou des injonctions normatives qu'on peut même qualifier d'inflation normative, avec effectivement, même si on peut y souscrire dans la philosophie avec le zéro artificialisation nette par exemple, mais également les matériaux sur lesquels nous n'avions pas de maîtrise.
Ouais.
Sur le coût des matériaux, notamment les matières premières qui ont flambé littéralement sur les trois dernières années. Alors bien évidemment, je pense que la guerre en Ukraine a le dos assez large puisqu'on attribue absolument tout et n'importe quoi à la guerre en Ukraine, mais néanmoins on voit bien que la crise de l'énergie conjuguée aux problématiques de matériaux, est-ce qu'on arrive, pour vous, c'est très, 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 très prosaïquement, dans le cadre de la COP, à avoir justement cette résolution d'équation entre un logement qui est digne, décent, qui répond à des standards, et en même temps, un coût de foncier qui est quand même plus élevé, des coûts de matières premières, est-ce qu'on arrive quand même à sortir un prix de sortie qui permet, c'est, vous y arrivez.
Oui,
vous arrivez.
On y arrive.
Grâce finalement à des acteurs très différents qui vous aident.
Et puis en fait, grâce à la puissance du modèle du économique du BRS, hein, la notion,
génial,
ce produit de qu'on dit que c'est une dissociation de propriété, en fait, fondamentalement, c'est une question de dissociation de bilan économique, de trouver des manières d'amortir les charges qui sont effectivement de plus importantes.
La capitalisation pour l'usager, elle est réelle.
Bien sûr.
Alors, il n'y a pas le phénomène, on va dire, entre guillemets, spéculatif qu'on pouvait avoir à une époque où on se disait forcément sur la résidence principale, on fait forcément la culbute. Ce que je trouve très avantageux, pour le coup, dans votre modèle, c'est que il y a la vraie raison de la résidence principale. C'est-à-dire que c'est une épargne à long terme également. où on retrouve aussi un certain capital. Mais c'est très nomenclaturé. Il y a des conditions de ressources et tout le monde ne peut pas accéder au BRS.
Non, tout le monde ne peut pas, mais on dit en gros 80% de la population aujourd'hui qui est éligible. Même. Donc c'est pas tout le monde, mais c'est quand même beaucoup de monde.
Oui, oui, c'est,
et
c'est...
on voit bien que parmi ces publics-là, il y a toute une partie, et notamment les plus riches, hein, ceux qui sont dans les niveaux de ressources les plus élevés, qui vont avoir le choix entre aller en BRS
bien ou
aller en pleine propriété. On peut parier qu'ils feront majoritairement le choix d'aller en pleine propriété. Ce que m'inspire votre propos, c'est, je crois que le BRS, il fait pas la promesse d'un profit financier ultérieur. On vous dit pas, achetez votre logement.
Comme la Doxa qu'on a fait passer aux Français. Voilà.
En revanche, il dit achetez votre logement et le profit financier, vous le faites tout de suite parce que vous achetez 30% moins cher dans la même ville, au cœur de l'agglomération, à côté des transports. Donc en fait, c'est une promesse immédiate. On leur dit pas dans 10 ans, vous gagnerez. Vous allez dépenser beaucoup aujourd'hui, vous allez vous mettre en difficulté, mais dans 10 ans, vous referez une santé financière. On leur dit, en fait, ne dégradez pas votre santé financière aujourd'hui
c'est
et
ça.
Vivez bien là où vous en avez envie, là où vous en avez besoin.
Vous êtes vraiment sur le pouvoir d'achat, là, pour le coup.
Oui. C'est du pouvoir d'achat plus
très
de
concret,
la qualité du
très stage. Concret, oui, très concret.
Après, il faut pas comment dire.
Mais comment des boucles Voilà, j'arrive à la retraite, j'ai acheté en BRS et 30 ans après, c'est trop grand. Je veux partir en province. Je peux céder mon appartement sous forme d'une vente à un prix qui est déjà défini.
Qui sera défini par les systèmes d'indexation.
Qui sera défini, mais on n'a pas le même phénomène effectivement d'accroissement peut-être de la valeur. Mais on retrouve aussi un capital. Est-ce qu'on peut le dire, ça?
Alors, on peut complètement dire qu'on retrouve un capital. Et je pense que l'accroissement de la valeur, c'est comme la qualité tout à l'heure. La valeur, elle est très polymorphe aussi. Il y a une valeur financière,
oui,
il y a une valeur d'usage, il y a une valeur. Et donc, vous avez un accroissement de la valeur d'usage, ça, c'est certain. Et vous allez effectivement pouvoir capitaliser votre dépense, l'emprunt, toute la partie empruntée est capitalisée. Et faire une petite plus-value, qui sera pas forcément si petite, mais qui sera encadrée.
Oui, encadrée et qui permettra à des personnes, quand on parle de retraite,
de
constitution d'un petit calcul à la retraite, et c'est, il n'y a pas d'antinomie là-dessus. Et d'ailleurs, même le gouvernement, les exécutifs encouragent les Français à essayer d'épargner le plus possible. C'est aussi, à travers la jouissance et l'usage de la résidence principale, d'avoir la possibilité d'avoir un capital à terme.
Tout
pour
fait.
Les projets de vie futurs, notamment le fait qu'on a besoin de moins de surface avec le temps.
Oui, ils pourront revendre, ils pourront essayer
à
céder à leurs enfants. Voilà. Et peut-être une idée qui n'est pas inintéressante à partager, c'est que dans les ménages qu'achètent aujourd'hui en BRS, on a bien sûr des jeunes ménages, des familles, on a un certain nombre, pas complètement ridicule, de retraités. De personnes qui, en fait, vendent leur grand logement très éloigné, qui demandent de la voiture, et qui viennent s'installer en BRS,
absolument.
Qui finalement ne va pas forcément emprunter parce qu'ils ont vendu leur logement, qui vont accepter d'avoir la redevance à payer chaque mois, mais qui, grâce à ça, passent dans un logement qui est adapté peut-être en termes d'organisation des espaces, qui est en cœur d'agglomération, qui est peut-être plus proche
ça,
des enfants.
Voyez,
des
ça,
oui,
ça, vous le voyez,
ça.
Oui,
et c'est pas un
ils
phénomène...
Payent, c'est un paiement cash ou ils arrivent
certains,
à surfinancer
vendent un logement pour acheter en BRS,
c'est ça.
En fait, font ce chemin du BRS qui leur permet de se rapprocher des aménités et de, en fait,
très souvent le cas.
Leur vieux jour, si on veut le formuler comme ça. Donc, c'est pas juste un propos de « je suis jeune et je fais ma capitalisation
en
vue de ma retraite »,
fonctionne
aussi
dans les deux sens.
« Je prépare ma retraite et je veux, à travers le BRS, m'assurer des bonnes conditions de vie et d'usage ». En étant respectueux de mes capacités économiques avec une rentrée.
Quand on prend les chiffres de la crise grave, très grave, de la filière, parce qu'on ne va pas se mentir, on est sur une filière qui est aujourd'hui très éprouvée, filière privée, mais aussi filière publique, bien évidemment, puisqu'on voit bien que même si effectivement il va y avoir, on a encore un texte sur la RLS qui doit être présenté, il y a un vrai sujet, la ORIF d'ailleurs. Qui est présidé, je crois, toujours par Damien Van Oerschelde, s'est très largement exprimé sur les sujets. In fine, ce sont les Français qui en pâtissent, parce qu'évidemment, on a un vrai sujet autour du logement. Moi, je trouve ça remarquable, votre organisation, absolument remarquable, qu'il faut absolument mettre en avant et la généraliser, parce que vous résolvez, justement, vous venez de le dire, très justement, les problématiques d'entrer dans la vie avec des jeunes couples qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à un logement dans les mêmes conditions, mais aussi les personnes âgées qui effectivement vendent leur maison et qui veulent aller sur ce type de solution dans un univers qui est contraint. C'est un succès, les OFS, depuis la création. Un vrai succès. C'était pas gagné d'avance, hein, dans l'idée, avec le BRS. Moi, je me souviens, j'avais fait mes premières émissions sur le BRS. Et j'étais d'ailleurs sur une première opération avec la maire de Paris, qui était quand même assez complexe. Et c'était pas vraiment gagné d'avance. Aujourd'hui, ça se généralise à un point absolument incroyable. Vous qui êtes une spécialiste du logement social, justement, et du logement tout court, vous saviez que ça allait fonctionner de cette façon-là?
Les signaux étaient quand même... Les astres étaient quand même plutôt alignés. C'est-à-dire que je pense que là, il y avait deux questions importantes qui restaient en suspens. C'est le modèle, on y croyait. Sa vertu, on en était convaincus. La question, c'était, est-ce que le grand public allait passer le cap de cette propriété particulière? Oui,
parce qu'il y avait une acculturation un peu complexe à faire auprès des... Oui, c'était pas évident.
Certains nous disent que c'est de la fausse propriété.
On dit ça, c'est à moi. Voilà.
Mais en fait, moi, j'aurais presque une tendance à dire, c'est presque une propriété augmentée, parce que, ok, vous n'êtes pas propriétaire de taux de foncier, mais quand on est en propriété, que le foncier, c'est un truc... mais en revanche, vous êtes sécurisé.
Mais oui, c'est vrai.
Faut pas l'oublier, donc c'est presque une propriété augmentée. J'ai envie d'opposer des tracteurs.
J'aime beaucoup je vais reprendre votre idée. Propriété augmentée, tout à fait.
Voilà. Et puis la deuxième question, c'était les financeurs, les banques. Est-ce que les banques allaient suivre? Les banques pour les organismes de foncier solidaire,
c'est le sujet
les
crucial.
Banques pour les ménages.
Absolument.
Et aujourd'hui, ça a pris un peu plus de temps, mais on est bien suivis, nous, en tant qu'OFS, par les organismes de financement, que ce soit la Caisse des dépôts, que ce soit Action Logement, que ce soit Arkéa. On est très bien accompagnés.
Très bien. Ils ont intégré.
De discuter, garder l'attention, mais on est bien accompagnés. Et les ménages, ça a été plus laborieux avec les banques de détail. Mais aujourd'hui, on a dans le secteur des banques mutualistes ou des
qui
banques
se sont emparées. C'est vrai, on a le groupe BPCE, on a le Crédit Coopératif qui a beaucoup travaillé sur cette question.
On a le Crédit Agricole.
Il y a le Crédit Agricole qui a beaucoup bossé, bien sûr.
Le partenaire d'origine.
Oui, on a l'essentiel du secteur, bien sûr.
Crédit Mut. En gros, là, on n'aura vraisemblablement pas certaines autres banques qui ne vont pas faire leur priorité sur ce type de produit. Mais aujourd'hui, les deux enjeux qui étaient, est-ce que les ménages vont le public en fait va adhérer quand on lance une commercialisation? C'est pas qu'on n'a pas de demande ces dernières années, ces derniers mois on avait de la demande, mais ils n'étaient pas financés à cause de la crise des taux d'intérêt, la crise bancaire, c'était indépendamment du BRS. Donc on a un intérêt des demandeurs et on a un accompagnement de nos financeurs.
La baisse de la BCE, est-ce que vous voyez une corrélation avec la reprise justement de la demande? On a gagné 100 points de base là sur le...
Oui, alors oui.
Et les banques ont décidé de réouvrir les vannes.
Je pense que le fait que, alors même si là juste avant on avait un économiste qui nous expliquait qu'il fallait pas non plus s'attendre à des baisses très importantes des taux, le fait qu'ils augmentent plus, le fait que les taux ont amorcé une descente, et surtout que les banques ont un peu desserré les taux et qu'elles rouvrent en fait, qu'elles rouvrent les vannes.
Ça a restauré la confiance.
C'est ce que je vous dis, c'est pas la demande qui manque, c'est les financements des demandeurs. Donc en fait, la question, nous, notre problème ces derniers temps, c'était que quand on envoyait un dossier, un ménage auprès d'une banque, il revenait sans prêt, sans proposition de prêt, indépendamment de ses capacités.
Ah, quand même.
Parce que on demandait des taux d'apport qui sont beaucoup plus importants. Donc en fait, finalement, c'est les règles qu'appliquent les banques.
On est les mêmes taux d'apport que le marché traditionnel. Aujourd'hui, on était passé avant on était à 10, parfois même à 110. Maintenant, on est à 20% d'apport.
Ah, on est moyenne. Au-dessus. On est au-dessus.
Ah, au-dessus, carrément.
Et je suis pas sûr
oui.
que ce soit une particularité du BRS. Nous, quand on regarde les niveaux.
Ah oui, non, mais c'est accès au crédit, En moyenne, les études qu'on a faites récemment sur le média nous donnent une moyenne à 20% d'apport.
Alors, nous, on a des ménages qui sont quand même un petit peu au-dessus.
À 30, hein.
Qui peuvent être entre 20 et 30. Oui, donc, il faut qu'on soit attentif à ça.
Pas neutre, oui.
Et je pense que ça, c'est lié, en fait, au taux d'endettement. C'est que les ménages qui ont réussi à avoir un prêt en banque, c'est ceux qui avaient taux d'endettement plus bas.
C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, Cécile Hagmann. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la COP foncière. C'est important. On vous retrouve sur Internet. Il y a plein d'infos qu'on peut avoir sur Internet. Votre modèle, il faut le défendre bec et ongle, et on voit bien la pertinence dans un monde qui est un peu chahuté. Merci d'être passé sur le plateau.
Merci à vous.
Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.